This recording accompanies the Language B Higher Level Examination, Paper 2, Listening Comprehension, for French, November 2023.
Cet enregistrement accompagne l'examen de Langue B, Niveau supérieur, Épreuve 2, Compréhension orale de Français, novembre 2023.
Esta grabación acompaña el examen de lengua B, nivel superior, prueba 2, comprensión auditiva, de francés, noviembre 2023.
The start and end of each audio text will be indicated by this sound.
Le début et la fin de chaque texte audio seront indiqués par ce son.
El inicio y el final de cada texto de audio se indicarán con este sonido.
The end of the examination will be indicated by this sound.
La fin de l'examen sera indiquée par ce son.
El final del examen se indicará con este sonido.
Texte A. Maintenant, vous avez 4 minutes pour lire les questions.
Vous allez écouter un extrait d'une émission radio.
Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur Radio Bleu. On se retrouve aujourd'hui pour une émission spéciale consacrée à la migration des jeunes Français. Nous accueillons Stéphanie Beaufort, sociologue spécialisée dans le secteur mobilité et jeunesse. Bonjour Stéphanie.
Bonjour.
Le programme Erasmus, devenu Erasmus Plus en 2014, fêtera ses 35 ans en 2022. Il a évolué d'année en année, mais reste une référence pour des milliers d'étudiants qui ont profité d'une mobilité géographique européenne et mondiale.
Tout à fait. Et bien qu'il existe depuis plus de 30 ans, il plaît toujours autant. Cette année, ce sont plus de 40 000 étudiants français qui se sont éloignés de la France pour partir à la conquête d'un nouveau pays et d'une nouvelle culture. Cette population voyageuse augmente chaque année, et certains pays du monde, comme les États-Unis et le Royaume-Uni, continuent de faire rêver les jeunes Français.
Mais de nouvelles destinations commencent à leur faire de l'ombre. C'est bien vrai, Stéphanie.
Effectivement. On peut aussi souligner que ce sont les jeunes de moins de 30 ans qui sont de plus en plus mobiles. Et bien que vivre aux États-Unis ou en Grande-Bretagne reste un rêve largement répandu auprès des jeunes Français, les statistiques montrent que les jeunes sont également attirés par d'autres destinations.
Merci Stéphanie, vous allez nous informer de ces destinations après une petite pause publicitaire. Nous sommes de retour pour parler de la migration des jeunes Français. Alors, expliquez-nous quelles sont les destinations préférées des jeunes.
Le Canada reste, comme les États-Unis et le Royaume-Uni, une destination phare chez les jeunes Français. L'activité économique canadienne est forte. Le pays possède des espaces naturels grandioses, des villes très appréciées des étudiants et une politique d'immigration accueillante. Mais depuis l'année passée, le Portugal est devenu tendance chez les jeunes étudiants. Ceci s'explique par le coût de la vie qui est faible et par son climat qui est très agréable. En plus, de nombreuses multinationales viennent de s'installer au Portugal, ce qui attire les jeunes Français qualifiés.
C'est donc ce flux migratoire qui provoque une perte de la population active en France.
Oui, les jeunes expatriés découvrent la vie active dans des pays plus attrayants que la France. Et malheureusement, en France, il est assez difficile pour les jeunes diplômés de trouver un emploi dans son domaine d'études. C'est pour cela que l'étranger offre alors bien plus de possibilités aux jeunes Français.
Maintenant, vous avez 2 minutes avant d'entendre l'enregistrement pour la deuxième et dernière fois.
Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur Radio Bleu. On se retrouve aujourd'hui pour une émission spéciale consacrée à la migration des jeunes Français. Nous accueillons Stéphanie Beaufort, sociologue spécialisée dans le secteur mobilité et jeunesse. Bonjour Stéphanie.
Bonjour.
Le programme Erasmus, devenu Erasmus Plus en 2014, fêtera ses 35 ans en 2022. Il a évolué d'année en année, mais reste une référence pour des milliers d'étudiants qui ont profité d'une mobilité géographique européenne et mondiale.
Tout à fait. Et bien qu'il existe depuis plus de 30 ans, il plaît toujours autant. Cette année, ce sont plus de 40 000 étudiants français qui se sont éloignés de la France pour partir à la conquête d'un nouveau pays et d'une nouvelle culture. Cette population voyageuse augmente chaque année, et certains pays du monde, comme les États-Unis et le Royaume-Uni, continuent de faire rêver les jeunes Français.
Mais de nouvelles destinations commencent à leur faire de l'ombre. C'est bien vrai, Stéphanie.
Effectivement. On peut aussi souligner que ce sont les jeunes de moins de 30 ans qui sont de plus en plus mobiles. Et bien que vivre aux États-Unis ou en Grande-Bretagne reste un rêve largement répandu auprès des jeunes Français, les statistiques montrent que les jeunes sont également attirés par d'autres destinations.
Merci Stéphanie, vous allez nous informer de ces destinations après une petite pause publicitaire. Nous sommes de retour pour parler de la migration des jeunes Français. Alors, expliquez-nous quelles sont les destinations préférées des jeunes.
Le Canada reste, comme les États-Unis et le Royaume-Uni, une destination phare chez les jeunes Français. L'activité économique canadienne est forte. Le pays possède des espaces naturels grandioses, des villes très appréciées des étudiants et une politique d'immigration accueillante. Mais depuis l'année passée, le Portugal est devenu tendance chez les jeunes étudiants. Ceci s'explique par le coût de la vie qui est faible et par son climat qui est très agréable. En plus, de nombreuses multinationales viennent de s'installer au Portugal, ce qui attire les jeunes Français qualifiés.
C'est donc ce flux migratoire qui provoque une perte de la population active en France.
Oui, les jeunes expatriés découvrent la vie active dans des pays plus attrayants que la France. Et malheureusement, en France, il est assez difficile pour les jeunes diplômés de trouver un emploi dans son domaine d'études. C'est pour cela que l'étranger offre alors bien plus de possibilités aux jeunes Français.
Maintenant, vous avez 2 minutes et 30 secondes pour finir de répondre aux questions. texte B. Maintenant, vous avez 4 minutes pour lire les questions.
Vous allez écouter le podcast de Jamila consacré à l'actualité sociale des médias.
Vous écoutez Supermédia, toute l'actualité sociale des médias servie sur un podcast.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on décrypte ensemble une tendance et on va parler des influenceurs virtuels. Ces personnages qui sont entièrement fictifs et sont créés pour représenter une marque. C'est une grosse tendance, notamment auprès des grandes marques de luxe. Les influenceurs virtuels ont été créés pour une seule raison, la publicité. Contrairement aux influenceurs humains, leur vie et leur apparence ont été inventées et fabriquées de toutes pièces. Depuis 2016, ces personnages fictifs ont investi les réseaux sociaux et sont suivis par des milliers d'abonnés. Pour vous parler de ce phénomène, qui prend de plus en plus d'ampleur dans le monde de la publicité et du marketing, je vous présente la première influenceuse virtuelle 100% française. Elle s'appelle Gaïa et c'est une Parisienne de 19 ans. Gaïa, c'est la première top modèle non humaine fabriquée en France. Elle est née à Paris et elle est passionnée par la mode, la beauté, l'innovation et le luxe. Comme les jeunes de son âge, elle partage tous ses loisirs sur Instagram avec ses 1500 abonnés. Ses vacances au Maroc, sa passion pour les macarons et ses journées shopping. Cette jeune femme virtuelle a été pensée par les élèves d'une école de mode à Paris, mais pas seulement dans le but de partager des photos sur Instagram. Le but est aussi de promouvoir sur les réseaux un monde écologique et responsable, ainsi que d'encourager la tolérance. Je vous invite à découvrir son compte Instagram pour faire connaissance. Depuis des années, de grandes marques utilisent déjà des influenceurs virtuels qui remplacent leur logo. Mais quel est l'intérêt de développer des personnages fictifs pour travailler dans la publicité? Il y a plusieurs avantages. Les influenceurs virtuels sont toujours disponibles. Ils peuvent être à Paris et à New York en même temps puisqu'ils sont virtuels et ils sont capables de parler toutes les langues grâce à leur intelligence artificielle. En plus, ils ne vieillissent pas, ne tombent jamais malades et surtout, ces personnages virtuels sont un moyen de visualiser les marques et leurs produits de manière innovante et amusante. Le marché français reste encore timide dans le secteur de l'influence virtuelle, mais on se doute bien que les marques remplaceront bientôt les influenceurs humains par des influenceurs virtuels pour ne plus dépendre de ces personnes qu'il faut payer pour leurs photos et leurs histoires postées sur les réseaux sociaux. Les influenceurs virtuels sont donc des ambassadeurs virtuels de la marque. Ils sont là pour porter son histoire, son actualité, ses valeurs et ses engagements. Ils constituent donc un nouveau genre de communication. Ils ont la même fonction que la presse, la télévision et les contenus en ligne. En bref, les influenceurs virtuels, comme Gaïa, font maintenant partie de la société.
Maintenant, vous avez 2 minutes avant d'entendre l'enregistrement pour la deuxième et dernière fois.
Vous écoutez Supermédia, toute l'actualité sociale des médias servis sur un podcast.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on décrypte ensemble une tendance et on va parler des influenceurs virtuels. Ces personnages qui sont entièrement fictifs et sont créés pour représenter une marque. C'est une grosse tendance, notamment auprès des grandes marques de luxe. Les influenceurs virtuels ont été créés pour une seule raison, la publicité. Contrairement aux influenceurs humains, leur vie et leur apparence ont été inventées et fabriquées de toutes pièces. Depuis 2016, ces personnages fictifs ont investi les réseaux sociaux et sont suivis par des milliers d'abonnés. Pour vous parler de ce phénomène, qui prend de plus en plus d'ampleur dans le monde de la publicité et du marketing, je vous présente la première influenceuse virtuelle 100% française. Elle s'appelle Gaïa et c'est une Parisienne de 19 ans. Gaïa, c'est la première top modèle non humaine fabriquée en France. Elle est née à Paris et elle est passionnée par la mode, la beauté, l'innovation et le luxe. Comme les jeunes de son âge, elle partage tous ses loisirs sur Instagram avec ses 1500 abonnés. Ses vacances au Maroc, sa passion pour les macarons et ses journées shopping. Cette jeune femme virtuelle a été pensée par les élèves d'une école de mode à Paris, mais pas seulement dans le but de partager des photos sur Instagram. Le but est aussi de promouvoir sur les réseaux un monde écologique et responsable, ainsi que d'encourager la tolérance. Je vous invite à découvrir son compte Instagram pour faire connaissance. Depuis des années, de grandes marques utilisent déjà des influenceurs virtuels qui remplacent leur logo. Mais quel est l'intérêt de développer des personnages fictifs pour travailler dans la publicité? Il y a plusieurs avantages. Les influenceurs virtuels sont toujours disponibles. Ils peuvent être à Paris et à New York en même temps puisqu'ils sont virtuels et ils sont capables de parler toutes les langues grâce à leur intelligence artificielle. En plus, ils ne vieillissent pas, ne tombent jamais malades. Et surtout, ces personnages virtuels sont un moyen de visualiser les marques et leurs produits de manière innovante et amusante. Le marché français reste encore timide dans le secteur de l'influence virtuelle, mais on se doute bien que les marques remplaceront bientôt les influenceurs humains par des influenceurs virtuels pour ne plus dépendre de ces personnes qu'il faut payer pour leurs photos et leurs histoires postées sur les réseaux sociaux. Les influenceurs virtuels sont donc des ambassadeurs virtuels de la marque. Ils sont là pour porter son histoire, son actualité, ses valeurs et ses engagements. Ils constituent donc un nouveau genre de communication. Ils ont la même fonction que la presse, la télévision et les contenus en ligne. En bref, les influenceurs virtuels, comme Gaïa, font maintenant partie de la société.
Maintenant, vous avez 2 minutes et 30 secondes pour finir de répondre aux questions. Texte C. Maintenant, vous avez 4 minutes pour lire les questions.
Vous allez écouter un extrait d'un reportage télévisé sur le tourisme responsable.
En Europe, différents labels de qualité ont été mis en place pour favoriser l'habitat écologique. Aujourd'hui, agir pour un tourisme responsable et limiter notre impact sur l'environnement est primordial pour nous tous. Mais qu'en est-il dans les pays d'Afrique? Pour commencer notre enquête, nous partons au Sénégal, où je suis allée à la rencontre du fondateur de l'association Touristes Éco, Stéphane Béranger. Bonjour Stéphane.
Bonjour Clara.
Je suis ravie de vous rencontrer pour parler de l'éco-hébergement, qui est devenu le modèle de logement touristique durable. Et puis, bien sûr, le label écologique que votre association a récemment mis en place. Alors, c'est quoi exactement ce label écolo ?
Nous l'avons appelé le Lion Vert et c'est un label qui permet de mettre en avant les hébergements qui s'engagent dans le respect de la planète et qui agissent pour limiter leur impact sur l'environnement.
Alors, ce label écologique, le Lion Vert, en fait, il a pour objectif d'informer les touristes afin qu'ils choisissent presque les yeux fermés un type d'hébergement reconnu durable et écologique.
Tout à fait. Notre but est de valoriser le développement du tourisme responsable au Sénégal et aussi d'inciter ces hébergements à devenir écologiques.
Et pour nous montrer à quoi ressemblera le type d'hébergement de demain, direction l'auberge de jeunesse Palmarin, près de Dakar. Mariama, la propriétaire, nous fera visiter son auberge qui deviendra, très prochainement, une éco-auberge de jeunesse. La toute première du pays. Mariama, bonjour.
Bonjour Clara. Bonjour Stéphane.
Merci de nous accueillir dans cet endroit digne du paradis. Pourquoi avez-vous décidé de vous tourner vers l'écotourisme ?
Depuis des générations, notre famille vit dans le respect de la nature. Comme l'auberge est au bord d'une lagune et au cœur d'une végétation luxuriante, on a décidé de construire un lieu de séjour dans un souci d'harmonie avec la nature et dont l'impact sur l'environnement est minime.
On peut voir qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur ce chantier. Stéphane, que fait concrètement Touriste Éco, votre association ?
Tout d'abord, notre association a récolté des fonds pour aider Mariama. Et puis, nous avons mis sur place de jeunes architectes bénévoles qui sont spécialisés dans l'habitat écologique. Nous aidons Mariama depuis 8 mois afin de l'accompagner dans la transition écologique de son auberge de jeunesse.
Les soleils jouent un rôle essentiel chez nous. Alors, on est en train d'installer des panneaux solaires pour générer toute l'électricité de l'auberge. Et puis, vous venez, Stéphane, de fabriquer des poubelles avec des matériaux recyclés pour faire le tri des déchets.
Et nous sommes en train de créer des circuits touristiques locaux qui proposent aux visiteurs une expérience interactive avec la population locale et dans le respect de la faune et de la flore.
Votre but est donc d'offrir aux voyageurs un séjour respectueux de l'environnement et d'une certaine manière de les inciter à voyager de manière responsable. Mariama, vous nous faites visiter ?
Avec plaisir, suivez-moi.
Maintenant, vous avez 2 minutes avant d'entendre l'enregistrement pour la deuxième et dernière fois.
En Europe, différents labels de qualité ont été mis en place pour favoriser l'habitat écologique. Aujourd'hui, agir pour un tourisme responsable et limiter notre impact sur l'environnement est primordial pour nous tous. Mais qu'en est-il dans les pays d'Afrique? Pour commencer notre enquête, nous partons au Sénégal, où je suis allée à la rencontre du fondateur de l'association Touristes Éco, Stéphane Béranger. Bonjour Stéphane.
Bonjour Clara.
Je suis ravie de vous rencontrer pour parler de l'éco-hébergement, qui est devenu LE modèle de logement touristique durable. Et puis, bien sûr, le label écologique que votre association a récemment mis en place. Alors, c'est quoi exactement ce label écolo ?
Nous l'avons appelé le Lion Vert et c'est un label qui permet de mettre en avant les hébergements qui s'engagent dans le respect de la planète et qui agissent pour limiter leur impact sur l'environnement.
Alors, ce label écologique, le Lion Vert, en fait, il a pour objectif d'informer les touristes afin qu'ils choisissent presque les yeux fermés un type d'hébergement reconnu durable et écologique.
Tout à fait. Notre but est de valoriser le développement du tourisme responsable au Sénégal et aussi d'inciter ces hébergements à devenir écologiques.
Et pour nous montrer à quoi ressemblera le type d'hébergement de demain, direction l'auberge de jeunesse Palmarin, près de Dakar. Mariama, la propriétaire, nous fera visiter son auberge qui deviendra, très prochainement, une éco-auberge de jeunesse. La toute première du pays. Mariama, bonjour.
Bonjour Clara. Bonjour Stéphane.
Merci de nous accueillir dans cet endroit digne du paradis. Pourquoi avez-vous décidé de vous tourner vers l'écotourisme?
Depuis des générations, notre famille vit dans le respect de la nature. Comme l'auberge est au bord d'une lagune et au cœur d'une végétation luxuriante, on a décidé de construire un lieu de séjour dans un souci d'harmonie avec la nature et dont l'impact sur l'environnement est minime.
On peut voir qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur ce chantier. Stéphane, que fait concrètement Touristes Éco, votre association?
Tout d'abord, notre association a récolté des fonds pour aider Mariama. Et puis, nous avons mis sur place de jeunes architectes bénévoles qui sont spécialisés dans l'habitat écologique. Nous aidons Mariama depuis 8 mois afin de l'accompagner dans la transition écologique de son auberge de jeunesse.
Le soleil joue un rôle essentiel chez nous. Alors, on est en train d'installer des panneaux solaires pour générer toute l'électricité de l'auberge. Et puis, vous venez, Stéphane, de fabriquer des poubelles avec des matériaux recyclés pour faire le tri des déchets.
Et nous sommes en train de créer des circuits touristiques locaux qui proposent aux visiteurs une expérience interactive avec la population locale et dans le respect de la faune et de la flore.
Votre but est donc d'offrir aux voyageurs un séjour respectueux de l'environnement et d'une certaine manière de les inciter à voyager de manière responsable. Mariama, vous nous faites visiter?
Avec plaisir, suivez-moi.
Maintenant, vous avez le reste du temps pour finir de répondre aux questions.